Chapitre 63. Pendant que Pascal Poussin examine avec attention chaque angle de la boîte de peinture Winsor et Newton, Sérénac et Benavides guettent le moindre de ses gestes. Au point mort où ils en sont dans l'enquête, ils mobilisent tous les experts possibles. On leur a présenté Pascal Poussin comme l'autre spécialiste incontournable de tout ce qui touche à la peinture impressionniste, en particulier en Normandie. Le directeur du musée leur a fait le coup du type débordé, mais a tout de même accepté de consacrer à la police quelques minutes. Le personnage devant eux correspond tout à fait au profil que Benavides avait imaginé au téléphone. Grand, mince, costume gris et cravate pastel. Le genre de VRP de l'art à finir directeur du Louvre, ou rien.
C'est un bel objet, messieurs. Une pièce bien conservée, mais qui date d'une bonne centaine d'années. Elle ne vaut pas une fortune, loin de là, mais elle pourrait intéresser des collectionneurs. Elle correspond au modèle que devaient utiliser les peintres américains au début du siècle. Mais depuis, Winsor et Newton, la marque au dragon, est devenue la référence mondiale. N'importe quel peintre un peu snob ou nostalgique rêverait d'y ranger ses pinceaux.
Benavides et Sérénac sont installés dans deux fauteuils d'époque en velours rouge, moins confortables que leur lustre ne pourrait le laisser croire. Les pieds de bois laqués noirs menacent de se rompre au moindre faux mouvement.
« Monsieur Poussin, demande Lorraine Sérénac, pensez-vous qu'il puisse encore exister sur le marché des toiles de Monet, des nymphéas en particulier ?»
Le directeur du musée a reposé la boîte.
« Que voulez-vous dire exactement, inspecteur ?»
Eh bien, par exemple, est-ce qu'on peut imaginer qu'un habitant de la région de Vernon ait pu bénéficier d'un tableau offert par Monet? Pourquoi pas un des 272 nymphéas?
La réponse fuse.
Claude Monet, lorsqu'il s'est installé à Giverny, était un peintre reconnu. Chacune de ses œuvres appartenait déjà au patrimoine national. Monet donnait très rarement des tableaux qui valaient une petite fortune.
Il précise de toutes ses dents blanches.
Il a accepté une très rare entorse à ce principe pour le musée de Vernon. C'est d'ailleurs ce qui fait la valeur exceptionnelle de notre tondeau.
La réponse semble satisfaire Sérénac. Pas Silvio Benavides qui repense aux commentaires exaltés du conservateur du musée des Beaux-Arts de Rouen.
Excusez-moi encore, mais Monet a dû en permanence négocier avec ses voisins, les habitants de Giverny, pour aménager son étang, pour conserver les paysages tels qu'il voulait les peindre. Est-il inenvisageable qu'il ait pu acheter l'accord des voisins contre la promesse d'une toile ?
Poussin ne cache pas son agacement. Il consulte ostensiblement sa montre.
Écoutez, inspecteur, la période des impressionnistes, ce n'est pas la préhistoire. Au début du siècle, il existait des journaux, des actes notariés, des comptes rendus de conseils municipaux. Toutes ces pièces ont été examinées par des dizaines d'historiens de l'art. Aucun, absolument aucun troc de ce type n'a jamais été mis au jour. Après cela, on peut toujours raconter ce qu'on veut.
Le directeur fait mine de se lever. Cet empressement à écourter leur conversation finirait presque par intriguer Benavides. Il attend vainement un secours de la part de Lorenz Sérénac.
« Et un vol ?»
lance Silvio. Pascal Poussin soupire.
« Je ne vois pas où vous voulez en venir. Claude Monet fut un homme organisé et lucide jusqu'à la fin de sa vie. Ses tableaux étaient recensés, classés, notés. À sa mort, son fils Michel n'a jamais signalé la moindre toile manquante. »
Les doigts du directeur du musée dansent une gigue énervée sur la boîte de peinture.
Inspecteur, si vous n'êtes pas capable de résoudre un crime qui s'est déroulé il y a une semaine, je doute que vous puissiez trouver la clé d'un hypothétique vol qui se serait produit avant 1926.
Crochet du droit. Benavides encaisse. Sérénac monte à son tour sur le ring.
Monsieur Poussin, je suppose que vous avez entendu parler de la Fondation Theodore Robinson ?
Le directeur du musée semble un instant décontenancé par l'arrivée de ce renfort. Il tortille son nœud de cravate.
« Bien entendu, elle fait partie des trois ou quatre principales fondations de promotion de l'art dans le monde. »«
Et qu'en pensez-vous ? » ?»«
Comment ça, ce que j'en pense ? » ?»«
Vous avez déjà eu affaire à cette fondation ? » ?»«
Évidemment ! Quelle question !»
La Fondation Robinson est incontournable pour tout ce qui touche à l'impressionnisme. Les trois pros, comme le précise leur slogan, prospection, protection, promotion.
Benavides opine de la tête. Poussin poursuit.
Un bon tiers des toiles exposées un jour dans le monde doivent passer par elle. Une telle fondation se fiche bien du musée de Vernon, vous vous en doutez. Mais pour des opérations de plus grande envergure... Tenez, il y a encore 15 jours, j'étais à Tokyo pour l'exposition internationale « Montagnes et sentiers sacrés ». Et qui en était le principal sponsor ?
La Fondation Robinson,
fait Serenac, comme s'il répondait à la question d'un jeu télévisé.
C'est un peu la pieuvre, cette fondation, non ?
Le directeur du musée s'étrangle dans sa cravate.
Comment ça, la pieuvre ?
C'est Benavides qui enchaîne.
Eh bien, pour quelqu'un qui n'y connaît pas grand-chose en peinture, on pourrait avoir l'impression que cette fondation, qui brasse des millions, s'intéresse davantage aux affaires juteuses qu'à la défense noble et désintéressée de l'art.
Benavides se redresse, en souriant d'un air faussement naïf. Il constate avec plaisir que le tandem qu'il forme avec Serenac s'améliore, comme un double au tennis qui gagne en expérience. Jouer l'intox. Pascal Poussin commence à perdre ses nerfs. Il jette un œil à sa montre et répond avec agacement.
Eh bien, pour quelqu'un comme moi qui y connaît quelque chose en peinture, la Fondation Theodore Robinson est une vieille et respectable institution qui a non seulement su remarquablement s'adapter au marché de l'art international, mais a par ailleurs toujours conservé son ambition initiale, c'est-à-dire la prospection de nouveaux talents, et ce, dès leur plus jeune âge.
« Vous voulez parler du concours « Peintre en herbe » ?» coupe Serenac.
« Entre autres, vous n'imaginez pas le nombre de talents aujourd'hui reconnus dans le monde que la Fondation a su détecter. »
« Ainsi, la boucle est bouclée », conclut Serenac. En résumé, la Fondation Robinson maîtrise à la fois ses placements et ses investissements.
« Exactement, inspecteur. Y a-t-il le moindre mal à cela ?»
Serenac et Benavides hochent la tête de concert en un duo parfaitement synchrone. Poussin consulte à nouveau sa montre et se lève.
« Bien !» fait-il en tendant la boîte de peinture. « Comme je vous l'avais dit, inspecteur, je n'ai pas pu vous apprendre grand-chose que vous ne sachiez déjà. »
C'est le moment. Silvio Benavides tente de décocher son ultime flèche.
« Une dernière question. Monsieur Poussin, pouvez-vous nous parler des nymphéas en noir ? Ce dernier tableau que Monet aurait peint quelques jours avant de mourir, selon le reflet des couleurs de sa propre mort. »
Pascal Poussin le toise d'un air désolé, comme on écoute un enfant qui raconte qu'il a croisé des elfes dans le jardin.
« Inspecteur,
l'art n'est pas une affaire de contes et de légendes. L'art est devenu une affaire tout simplement. »
Cette rumeur d'autoportrait funèbre n'a pas le moindre fondement. Il n'existe pas le plus petit indice pour attester sa réalité, si ce n'est l'imagination d'illuminés qui croient également qu'un fantôme hante les couloirs du Louvre ou que la véritable Joconde se cache dans l'aiguille creuse d'Étretat.
Hypercute. Benavides est sonné. Serenac hésite un instant à rester sagement derrière les cordes. Tant pis, il s'élance dans l'arène.
Je suppose, monsieur Poussin, que la présence dans les ateliers et la maison de Monet de plusieurs dizaines de toiles de maître qui dormiraient dans la poussière des greniers ou des placards, c'est également une légende villageoise.
L'œil de Pascal Poussin brille étrangement, comme si Serenac avait profané un dangereux secret.
Qui vous a raconté ça ?
Vous n'avez pas répondu à ma question, monsieur Poussin.
Non, c'est vrai ? La maison et les ateliers de Monet sont des endroits privés. Même si j'ai souvent visité ces lieux en tant qu'expert, vous comprendrez aisément qu'une réponse à votre question relève du secret professionnel. Par contre, permettez-moi également d'insister. Qui a bien pu vous raconter cela ?
Serenac sourit de toutes ses dents.
Monsieur Poussin, vous comprendrez aisément que cela aussi relève du secret professionnel.
Pendant quelques secondes, un pesant silence s'abat sur la pièce. Les deux inspecteurs finissent par se lever et les chaises d'époque en grincent de soulagement. Le directeur du musée les raccompagne avec une attention pressée, puis referme la porte derrière eux.
pas bavard, le directeur. »
Commande Benavides dans le hall tout en levant les yeux vers le tondeau de Nymphéa.
« Plutôt pressé, j'ajouterai. »
« Dis donc, Silvio, tu m'as l'air d'avoir progressé en termes de connaissances artistiques. On dirait que tes centres d'intérêt ne se limitent plus au seul barbecue. »
Benavides choisit de prendre la remarque comme un compliment.
« Je me documente, patron. J'essaye de croiser mes informations, puiser aux meilleures sources. Mais ce n'est pas pour autant que j'y vois plus clair, au contraire. »
Ils sortent et marchent dans la cour pavée du musée. Devant eux, quelques péniches remontent la Seine. Sur la rive droite, l'étrange maison du vieux pont, en équilibre depuis des siècles au-dessus du fleuve entre deux piles abandonnées, semble sur le point de s'effondrer dans l'eau grise.
« Tu as encore ta feuille et tes trois colonnes ?» demande Sérénac.
Silvio rougit en tirant de sa poche une feuille de papier.
« Patron, hier soir, j'ai tenté autre chose, une autre façon d'agencer tous les indices. » C'est juste un brouillon, mais...
Montre-moi ça, fait Sérénac.
L'inspecteur laisse à peine le temps à son adjoint de déplier la feuille avant de la lui arracher des mains. Il baisse les yeux, découvre un triangle griffonné dans lequel différents noms ont été inscrits. Il se passe la main dans les cheveux, perplexe.
C'est quoi encore, Silvio, cette foutue pyramide?
J'en sais rien. Bredouille Benavides. Juste une autre façon de penser cette affaire, peut-être. On est depuis le début de cette histoire face à trois séries d'indices qui partent dans trois directions différentes. Les nymphéas, les amandes de Morval et les gosses. C'est, disons, une méthode différente pour tout formaliser. Pourquoi ne pas imaginer que plus on se rapproche du centre du triangle, plus l'indice de culpabilité est fort ?
Sérénac s'appuie au socle de la statue qui commande l'entrée du musée. Un cheval de bronze.
Tout formalisé. C'est dingue. Tu crois vraiment résoudre cette enquête avec cette putain de méthode cartésienne ?
Il pose une main moite sur la croupe de bronze.
Si je te suis donc, au centre, tu placerais la fondation Theodore Robinson et cette fille de Boston, Aline Maletras.
Ouais.
Le seul problème, c'est que le directeur du musée vient de refroidir sérieusement la piste d'une affaire dans le monde de l'art autour des nymphéas ou d'un quelconque tableau de Monet, même peint ante mortem.
Je sais. Malgré tout, je trouve assez louche son histoire de secret professionnel.
Moi aussi. Mais j'ai encore plus de mal à croire à cette histoire surréaliste de dizaines de tableaux impressionnistes oubliés depuis la mort de Monet dans les greniers de la Maison Rose.
Je vous suis. En tout cas, les Dupin n'ont a priori rien à voir avec les gosses et le trafic d'art, surtout le mari. Je les positionne dans un angle mort, tout comme Amadou Candy.
Sérénac continue d'observer le croquis avec étonnement. Silvio Benavides souffle discrètement de soulagement. Dans une version antérieure de son triangle, il avait inscrit le nom de Lorenz Sérénac, à mi-chemin entre le sommet Amante et le sommet Nymphéa. Sérénac relève soudain la tête et le dévisage étrangement. Silvio pose un doigt sur son triangle.
Reste la fille en blouse bleue, celle qu'on n'a pas identifiée. Dans mon triangle, je la situe quelque part entre les amantes et les gosses. Cela devient une obsession, ton histoire de môme. T'as de la suite dans les idées, Silvio. On peut pas dire...
Qu'est-ce qui vous faut de plus, patron ? Une carte d'anniversaire destinée à un enfant de 11 ans avec une étrange citation d'Aragon. Et maintenant, une écriture de gosse sur la boîte de peinture. Un môme de 11 ans tué selon le même rituel que Morval en 1937. Des maîtresses de Morval, dont une non identifiée qui pourrait, pourquoi pas, avoir eu avec lui un enfant d'une dizaine d'années, non reconnu par Morval.
Ouais. En tous les cas, ce n'est pas un gosse de 11 ans qui a pu porter la pierre de 20 kilos qui a fracassé le crâne de Morval. Et avec toute cette salade d'indices, tu fais quoi ?
Je sais pas. Je n'arrive pas à me sortir de l'idée qu'un môme de Giverny est en danger. J'ai bien conscience que c'est ridicule. On ne va pas mettre tous les enfants de Giverny sous cloche, mais...
Lorenz Sérénac lui tape affectueusement dans le dos.
On en a déjà parlé. C'est le syndrome de l'homme papa ou presque.
Au fait, toujours rien côté maternité ?
Calme plat. On arrive au terme.
Je tente d'y passer le plus souvent possible avec une pile de magazines que Béatrice me balance invariablement sur la figure. « Tout va bien, faut attendre, le col n'est pas ouvert, il est trop tôt pour une césarienne, c'est le bébé qui décide, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre ?» C'est ce que répètent à longueur de journée les sages-femmes.
« Tu y retournes, là ?»«
Bah oui. » »« Je m'en doute, Silvio. Tous les autres hommes brûleraient leur dernière nuit de célibat dans l'alcool, le shit ou le poker. Mais pas toi. Salut Béatrice de ma part, c'est une fille bien, tu la mérites. »
Il passe sa main sur son épaule.
« Je te rassure, tu es le dernier des sages sur cette planète. Moi, je retourne en enfer. »
Lorenz Serenac regarde sa montre. 16h25. Il enfile son casque et enfourche sa Triomphe.
« Chacun sa ligne de fuite ?»
Silvio Benavides regarde son supérieur s'éloigner. À l'instant où la Triomphe disparaît dans l'angle des maisons des quais de Seine, il se demande si, au final, il a eu raison de rayer le nom de Lorenz Serenac sur la liste des suspects.